Bonjour sur Fréquence Cié, vous êtes ici avec la radio locale du pays de Haute-Sarthe et la radio locale du pays de Haute-Sarthe avec les élèves de première aile de la cité scolaire Paul Scarron est allé rencontrer une grande sœur du côté de Paris, c'est Europe 1 qui avait été choisi. Europe 1, donc une radio qui est apparue au début des années, dans les années 50, et une radio qui s'est illustrée principalement dans les années 60 avec la vague de Salut les copains et par la suite beaucoup d'autres émissions bien célèbres. Là, il s'agissait de découvrir deux émissions, l'émission de Ruquier, on en parlera tout à l'heure, l'émission de Morandini. Et dans un premier temps, ce qu'il faudrait, c'est peut-être que Sarah, qui était donc dans ce groupe de première aile et de terminale aile, nous dise un petit peu à quoi ça ressemble ce quartier de la rue François 1er.
Eh bien, je vais vous dire, j'ai vu pas mal de choses. Donc en partie, donc c'était un quartier très riche, grâce à son architecture particulièrement bourgeoise. J'ai pu voir aussi des belles voitures, en partie des Mercedes, donc ce qu'on ne voit pas vers Cié. Nous avons aussi pris la station métro de Franklin Roosevelt. Donc ce studio Europe 1 se situe en face du studio Pixar. Et voilà.
Voilà, donc c'est dans le quartier, les quartiers riches, hein, c'est quasiment le 16e arrondissement de Paris, une place centrale, où on voit défiler plein de monde pour aller rejoindre cette radio-là, mais également d'autres, hein, RTL est pas très très loin non plus. Voilà, ça c'est pour le quartier, donc une radio implantée dans un lieu bien différent de nous. Le studio Tristan, donc le studio pour l'émission de Ruquier, tu peux nous en parler ?
Bah, quand je suis arrivé, c'était un studio tout bleu, avec des lumières tamisées. Donc au centre, on avait les animateurs avec un public autour, des micros tout autour du studio pour avoir un son d'ambiance, et puis bah derrière une vitre avec une très grosse régie où il y avait les techniciens.
Donc un grand studio prévu pour le public. La forme de la table aussi, assez étonnante, oui.
Assez grande, ouais. De la table de mixage, surtout dans la régie, qui est très très grande. J'ai jamais vu ça.
Ouais, le côté Boeing.
Ouais.
et le studio, donc un placement en triangle, ouais. En fait, de l'ensemble de l'équipe de Ruquier. Antoine, Élise, justement, quelques mots sur cette émission donc de Ruquier, qui est enregistrée le matin et diffusé l'après-midi. Alors, qui est-ce qui nous en parle ? Antoine, Lise
Un peu nous deux, on va
voir. On vous écoute, voilà. Oui.
Faut savoir d'abord que Laurent Ruquier prépare entièrement son émission tous les matins, très tôt dans la matinée. Et tous les autres chroniqueurs ne sont absolument pas au courant de ce qui va se passer pendant toute l'émission. Donc, ils réagissent spontanément avec beaucoup d'humour et leurs réactions sont totalement libres.
Donc, on a trouvé aussi que le plateau était très détendu, avec une bonne entente générale. Avec les chroniqueurs Stevie, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon.
On a par exemple une petite anecdote avec Jérémy Michalak qui était un peu la tête de Turc, surtout au début. Il s'est ramené avec un pull orange et il s'est fait moquer de lui pendant peut-être 10 minutes à l'antenne d'ailleurs par les autres chroniqueurs. Voilà, donc ça, c'est assez sympa comme entente.
Ouais, donc il y a beaucoup d'improvisation. Il y a même des codes. Hein, on a découvert quelques codes. Mmh. Des fois, par exemple, qui était Delgado. Hein, c'était ça le mot. En gros, c'est il est temps qu'on s'arrête pour aller fumer une cigarette.
Hein. Voilà.
On a compris après, justement. Donc voilà comment s'est passée cette émission où ils n'arrêtent pas de se vanner entre eux, ce qui en fait aussi le charme, une vraie émission de divertissement. Vous avez trouvé que ça donnait quand même dans la légèreté, l'humour ou plutôt parfois un petit peu lourd.
Un petit peu lourd quand même, oui, parfois.
C'est aussi la particularité et l'identité de l'émission. Zachary, il y a une séquence importante, c'est la fin de l'émission de Ruquier, c'est l'invité mystère. Comment ça se passe cette émission et là justement, qui est-ce qu'on a eu la chance de voir ?
Donc cette fois-ci, l'invité mystère, c'était Zaz, une chanteuse qui vient de se faire connaître par les Français et dans d'autres pays aussi. Donc l'invité mystère se trouve dans un autre studio d'enregistrement avec un chroniqueur. Et donc ce chroniqueur est en liaison avec les autres chroniqueurs qui sont dans la salle avec le public et répond aux questions que posent les chroniqueurs. Et Zaz doit répondre par oui ou par non.
Et donc on découvre Zaz au dernier moment.
Ouais. Sur juste un mot, chanteuse des rues.
Voilà, c'était l'indice principal, bon, et qui vous a d'ailleurs mis sur la voie. Je crois qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà identifié Zaz avant tous les autres. Alors, à l'issue d'enregistrement de cette émission qui dure pendant 2h30, on a donc une rencontre avec Laurent Ruquier, qui a répondu aux questions de Tristan Rocher, Zachary Poupin et Sarah Ascander.
Et quelle est la différence entre la radio et la télé pour un animateur?
Alors, de moins en moins de différence, puisque maintenant, même à la radio, on est filmé, il y a des caméras pour le web et pour Internet, donc au final, ça finit par se rapprocher l'un de l'autre. Non, mais autrement, il y a quand même plus de liberté à la radio, tout simplement parce que voilà, on peut arriver un peu moins bien habillé, pas maquillé, mal rasé, enfin voilà, tout souvent. Bon, non, mais je vais dire des banalités, mais voilà, l'exercice est normalement plus simple à la radio qu'à la télévision.
Quel a été votre parcours personnel pour en arriver à cette fonction d'animateur?
Oh là là, bah tout simplement, d'abord j'ai commencé à faire de la radio sur des radios locales au Havre, et puis ensuite à Rouen, voilà, l'éclosion des radios locales dans les années 80, on n'était pas nés, mais avant il n'y avait pas beaucoup de radios, et l'avantage que j'ai eu c'est d'arriver au moment où plein de radios sont nées au même moment, toutes les radios régionales, locales qui n'existaient pas avant, et donc j'ai pu profiter de cette explosion-là avant d'arriver à Paris pour travailler sur des radios dites plus sérieuses.
Quel est le temps de préparation avant chaque émission et qui fait quoi?
Oh là là, qui fait quoi? Bah déjà, ceux qui sont autour de la table, à part moi, rien, déjà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai une équipe avec moi qui est derrière la vitre et qui, le matin, moi, je lis toute la presse le matin, je stabilote mes articles, moi-même, choisis mes questions. Puis après, il y a quelqu'un qui... voilà, qui fait un petit travail d'assistana, qui découpe et qui met tout ça en ordre sujet par sujet. Mais bon, je préfère en tout cas lire la presse moi-même et découper les questions moi-même pour mon émission, de manière à être informé de tout ce qui se passe, bien être au courant. Tout ce que je fais, que ce soit à la radio, à la télévision ou ailleurs, ça n'a qu'une source, c'est l'actualité. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il faut vraiment lire toute la presse tous les matins.
Respectez-vous le conducteur à la lettre?
Il n'y a pas vraiment de conducteur dans cette émission. Là, la radio, c'est de l'improvisation. Alors, vous l'avez vu, heureusement, il y a du montage, parce que comme ça, on peut couper les moments où on rame un peu. Mais autrement, le seul conducteur, c'est se dire qu'il y a 7-8 minutes, paf, après, il y a une pub, alors on s'arrête, on reprend, voilà. Mais autrement, il n'y a pas beaucoup plus de conducteur que ça, à part des rendez-vous type, qui sont effectivement forcément respectés, comme le rendez-vous avec Serge Liado et les actualités, les flashs à 17. Bon, voilà, c'est ça le conducteur. Mais autrement, à l'intérieur de chaque séquence qu'on a, il n'y en a pas.
Qu'est-ce qui fait un bon animateur?
Oh là là, alors ça, j'en sais rien, mais je pense la spontanéité et rester soi-même. Moi, je suis contre les écoles de radio et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas uniformiser les gens, et plus on ressemble à quelqu'un d'autre, moins c'est bien.
Vous servez-vous souvent d'Internet, de téléphone pour préparer vos émissions?
Internet, pas tant que ça, puisque si, c'est les jours où il y a une grève des journaux, parce que là on va directement sur le site de chaque journal pour aller piocher les informations, mais autrement non, c'est encore le papier qui m'intéresse, la presse en papier que je consulte, mais voilà, les jours où en kiosque on les trouve pas, les journaux, on est content d'aller sur Internet pour les trouver, et autrement non, Internet nous sert que pour la correspondance avec les auditeurs qui nous envoient des mails. Quant au téléphone, oui, comme dans tous les boulots.
L'audimat est-il important pour vous?
Oui, mais l'avantage qu'on a à la radio, c'est qu'il ne tombe que tous les 2 mois et demi. Alors, on a au moins 2 mois et demi tranquille avant de tomber sur un autre résultat. Donc, c'est pas comme à la télé où on a l'audience dès le lendemain matin.
Après l'enregistrement, est-ce que vous réécoutez vos émissions?
Non, je m'en vais vers d'autres aventures, mais je réécoute pas. Il y a un réalisateur en revanche qui fait un montage, qui coupe les petits moments où c'est moins bien, où ça rame, où on est allé parfois trop loin. Et en fait, moi, je fais le montage en même temps pendant l'émission. J'ai un petit, vous avez peut-être vu, j'ai un petit bouton sur lequel j'appuie. Et pendant l'émission, je signale déjà au réalisateur, tiens, ça tu pourras l'enlever, tu reprendras là, coupe, voilà. En fait, en même temps que j'anime, je fais déjà le montage moi-même dans ma tête et je le transmets au réalisateur, et après il se débrouille. En revanche, quant à la réécouter, ça peut m'arriver si je suis dans ma voiture par accident, j'allais dire, mais en tout cas sur la route, et que voilà, je me dis tiens, j'écoute un peu je piège parfois le réalisateur en écoutant le montage et en lui disant tiens, mais pourquoi t'as pas coupé ça, ou enfin, je peux pas le faire au quotidien, ça m'arrive une fois toutes les je sais pas 40 émissions.
Improvisé et écrit.
Ah bah oui, alors la partie, il y a rien d'écrit déjà, voilà, ça c'est simple. Même les questions, elles sont pas écrites d'ailleurs. Je tourne les je stabilote comme on l'a vu mes articles de journaux et puis je mets un grand trait rond autour de certaines phrases qui m'inspirent les questions, mais ma question elle n'est même pas écrite mot à mot. Donc on peut vraiment dire que tout est improvisé, oui.
Laurent Ruquier au micro de Tristan Rocher, Zachary Poupin et Sarah Ascander. Cette émission est enregistrée le matin et diffusée l'après-midi sur Europe 1. Par contre, on voulait, en dehors d'une émission de divertissement, pouvoir assister à une session en direct et une session d'information. C'est pourquoi nous avons choisi d'aller voir le grand direct des médias et le grand direct de l'info animé par Jean-Marc Morandini. Et ça, c'est à partir de 11h. Et donc justement, on change de lieu. Justine, le studio est-il différent du studio de l'émission de Ruquier?
Alors moi, il m'a paru déjà plus grand que le studio de Ruquier. Pour ce qui est du public, il était en face de la table, en face et en hauteur. Il y avait aussi des écrans sur les murs qui diffusaient l'émission, qui étaient tournés devant nous. Et il y avait aussi une vue des coulisses, entre guillemets, de l'émission, ce qui m'a semblé un peu inutile. J'ai vu aussi les caméras qui servent à rediffuser certains chroniqueurs sur le net pendant leur chronique. On peut dire aussi que les règles sont très strictes pendant l'émission et même pendant les pauses, puisque, pour anecdote, un jeune homme nous escortait même aux toilettes pour éviter qu'on se perde. Et sous peine d'être atomisé par ses patrons d'ailleurs, s'il le faisait pas. On nous a aussi répété plusieurs fois de faire le silence avant l'émission et d'applaudir quand on nous l'indiquait, malgré le fait qu'à des moments, il ne serait pas venu à l'esprit d'applaudir.
Voilà, donc tu rappelles les règles de sécurité importantes dans les médias nationaux, et puis des règles de vie tout simplement. Pendant les émissions de radio, il y a des choses qu'on doit faire ou ne pas faire. C'est une mise en scène complète, dans laquelle le public est partie prenante. La première partie de cette émission, c'était le direct des médias, Chanis. Cette émission, donc, ce jour-là, se déroulait comment et parlait de quoi et avec qui?
Alors, quand on est allé à Europe 1, les invités étaient Dominique Chapat et un gendarme qui venaient parler de l'émission Zéro de conduite, qui faisait sa première le soir même. Donc, ils ont parlé du concept de l'émission, de leur rôle et des invités. Il y a même un début de débat qui a été entamé entre les deux hommes pour savoir si les candidats devraient ou non se faire retirer leur permis. Donc, dans l'ensemble, il y avait une bonne ambiance, c'était pas mal.
Oui, on est quand même dans le divertissement pour cette émission sur les médias. Pierre, toi, tu as regardé de plus près ce qu'on pourrait appeler les chroniqueurs, qui jouent un rôle vraiment important. Ça t'inspire quoi, toi, ce rôle de chroniqueur?
Eh bien, tout d'abord, il y a plusieurs chroniqueurs qui sont intervenus à différents moments de l'émission. Donc, les uns pour faire rire, donc souvent à propos des invités, ou d'autres encore pour présenter la météo ou les infos. Donc les humoristes apportent une parenthèse comique en réagissant à ce qu'ont dit les invités et ils se font une joie de reformuler les propos qu'ont pu tenir les invités à différents moments de l'émission. La météo, donc elle est présentée par
Nathalie Rouet,
qui est donc une chroniqueuse
qui vient aussi de la télé,
qui s'inspire des relevés météo les plus récents en fait. Et l'info en fait, elle présente les différents faits d'actualité et les scoops.
Alors on va venir tout à l'heure sur le déroulé du journal lui-même. Pour ce qui est des chroniqueurs, nous quand on écoute à la radio, on a l'impression que tout le monde est là tranquille, installé au studio comme autour du feu. Ça se passe comme ça, non? Ou ça bouge beaucoup?
Non, en fait, oui, les chroniqueurs arrivent, ils parlent pendant une minute et ils repartent tout de suite après. En fait.
Ouais, c'est sans arrêt. Ils suivent pas du tout l'émission. Leur papier est totalement écrit. Alors par contre, on a vraiment vu que c'était du papier écrit, bien léché, bien clair, bien net. Donc voilà. Ça c'est pour la partie chroniqueur qu'on retrouve à la fois dans la partie média et dans la partie info. Julie et Stéphanie, qu'est-ce que vous avez relevé dans le courant de ce journal, de la session d'information qui se déroule donc cette fois entre midi et 13h30?
Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y a que Morandini, son équipe de chroniqueurs et les intervenants qui participent à l'émission. Il y a aussi des internautes qui laissent des messages sur son site, des intervenants téléphoniques et des auditeurs aussi qui téléphonent, qui interviennent sur les différents débats de l'émission. Les débats du jour étaient la prison à 16 ans et l'aspartame, des débats très mouvementés.
Oui, l'aspartame à propos des risques de maladie hein, que ça pouvait entraîner. Oui, autre chose sur ce point-là, oui.
Mais déjà aussi pendant l'émission, donc il y a eu un scoop donc en direct. On a appris qu'il y avait eu une avalanche et qu'il y avait eu plusieurs morts. Enfin, je sais plus combien exactement. Et donc d'ailleurs les informations se contredisaient parce que bon de temps en temps il y avait des personnes en fait qui allaient voir Morandini pour lui dire s'il y avait eu des nouvelles informations par rapport à l'avalanche.
Vous avez vu en fait l'info se faire en direct, oui. Une information générale qui arrive, il y a eu une avalanche,
oui.
Et puis après est-ce qu'il y a eu des victimes ou pas, quel niveau les victimes, le coup de fil direct à Lyon pour savoir en savoir un peu plus. Oui, donc ça c'était quand même intéressant cette situation. Vous avez assisté également au débat, vous avez assisté entre autres au débat entre Guy Burenboim et puis Philippe Tesson. Je sais pas, peut-être que vous voulez en parler ou peut-être Pierre sur ce débat. Qui est-ce qui va en parler de ce moment de débat vraiment chaud Impression de que c'était plutôt un spectacle ou on était plutôt sur le fond.
Oui, en fait, chacun des deux candidats défendait sa thèse et parfois ils élevaient le ton et on avait vraiment l'impression qu'ils allaient en venir aux mains.
Voilà, mais ils étaient dans un rôle.
Ouais, hein, voilà.
Parce qu'en fait, après, ils se serrent bien la main et tout, gentiment. Mais ils se ratent pas. Ils sont là pour ça. Ils sont faits pour faire de l'audimat, hein, tout simplement. Julie, Stéphanie, d'autres remarques sur ce journal, cette session d'information?
Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant et aussi assez impressionnant parce que tout le monde, en fait, sait ce qu'il a à faire. On voit des gens un peu courir un peu partout et c'est assez déconcertant un peu pour le public, quoi, en fait, parce que tout le monde sait vraiment ce qu'il a à faire, à quel moment. Et...
La seule chose qu'il faut vraiment dire, retirer de ce que tu viens de dire, c'est que en aucun cas, il y a de l'improvisation. Dans ce type d'émission, tout est calé à la seconde près. On a même vu un moment le journaliste qui présente l'info dire à Nathalie Rioué tu auras 45 secondes. Non, tu auras 40 secondes. Non, maximum, tu auras 40 secondes pour présenter ta météo. On l'a vu partir avec un débit de paroles phénoménal. Voilà, ça c'est aussi une question de professionnalisme. Alors, à l'issue de l'émission, c'est Laurine Delacour et Aline Villeneuve qui ont tendu notre micro à Jean-Marc Morandini qui nous a parlé donc de son émission et de lui-même.
Quelle est la différence entre la radio et la télévision pour un animateur de session d'information?
La différence, c'est qu'on est beaucoup plus léger, beaucoup plus libre à la radio parce qu'on n'a pas de caméra à regarder, parce qu'on peut être avec ses papiers, parce qu'on n'a pas à être maquillé, on n'a pas à être en costume. Donc voilà, on est plus à l'aise. Et puis surtout, la radio, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand il se passe un événement dans le monde, quand vous êtes en télé, il faut établir une liaison image par satellite avec quelqu'un qui est sur place, il faut récupérer des images. Parce que quand vous êtes à la radio, aujourd'hui, un simple téléphone portable suffit. Donc il peut se passer n'importe quoi, comme aujourd'hui l'avalanche qui s'est produit tout à l'heure. Voilà, en 2 minutes, on a notre correspondant qui est sur place et on arrive à le faire intervenir à l'antenne. Il arrive à faire un direct. En télévision, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir récupérer des images, il va falloir avoir une liaison qui va permettre d'envoyer ces images. Ensuite, il va falloir monter ces images. Donc, en général, il faut beaucoup plus une demi-heure ou une heure pour arriver à faire quelque chose d'efficace.
Quel est votre parcours personnel pour être arrivé à cette fonction ?
Moi, j'ai fait une école de journalisme. Une maîtrise de journalisme et communication à Marseille, puisque je suis de Marseille. Et puis ensuite, j'ai fait des stages, comme tout le monde. Et petit à petit, j'ai bossé, moi, à France 3 en région. Après, j'ai bossé à la 5, à l'époque, Lagardère, Berlusconi, tout ça. Voilà, donc c'est plutôt par étapes. C'est un métier où on bouge beaucoup en général, où on change beaucoup d'employeurs parce que ça permet d'avancer, ça permet d'avoir des changements de fonction. Donc c'est quelque chose qui se fait par étapes régulièrement.
Comment est composée l'équipe et concernant la préparation des émissions, qui fait quoi ?
Concernant la préparation des émissions, alors concernant la partie télé, j'ai 2 journalistes qui travaillent sur l'émission, qui sont là pour caler les invités, qui sont là pour sortir de la documentation, pour préparer les émissions, me sortir des interviews qui ont été réalisées par les invités, préparer, mettre au propre l'ensemble avec des phrases clés, des phrases chocs qu'ils ont pu dire dans la presse. Moi, ça m'alimente pour faire mon interview. Moi, il se trouve que j'ai une façon de faire des interviews où je lis pas beaucoup. enfin, je réagis beaucoup aux gens que j'ai en face et voilà, je suis beaucoup plus dans le spontané. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'écrire mes questions pendant des plombes et j'ai pas besoin de lire les questions. Donc, ça donne un ton un peu plus vivant et convivial à ce que je fais. Mais je suis vraiment en réaction vis-à-vis des invités. Et sur l'information, on a une rédactrice en chef qui s'occupe là aussi de caler les invités et de trouver les informations qui vont m'alimenter moi, comme aujourd'hui, par exemple, quand on fait l'étude sur le light et sur tous les aspartames. Voilà, elle me donne des informations, elle me donne des citations qui ont été retrouvées dans la presse.
Comment les sujets abordés sont-ils choisis ?
C'est assez simple. Enfin, c'est plutôt une décision. Moi, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire en général. Donc, j'en parle avec les responsables le matin, à la fois sur les médias et l'actu. Mais voilà, moi, je sais ce qui m'intéresse, je sais ce dont j'ai envie de parler. Pour l'info, je traite sur tous les sujets qui m'intéressent. Voilà, j'ai cette chance. Quand j'ai envie de débattre, quand j'ai envie d'avoir des invités, quand je réécoute la radio le matin ou quand je lis la presse, je me dis, ah ben ça, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. C'est un sujet qui m'interpelle. Je voudrais savoir pourquoi, je voudrais savoir comment. Et en général, c'est le sujet que je fais le midi. J'ai la chance, ici à Europe, d'avoir cette chance, cette possibilité qui est de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux et sur les sujets qui m'intéressent.
Et concernant les invités, comment ils sont choisis ?
Pareil, alors là c'est vraiment ça, c'est le boulot sur la partie info, ça c'est vraiment le boulot de la rédactrice en chef qui gère ça. C'est-à-dire que moi je lui définis ce que j'ai envie de savoir. Voilà, je lui dis j'ai envie de poser des questions. Là par exemple, c'est aujourd'hui quand on faisait l'aspartame, j'ai envie de savoir médicalement comment ça se passe, quelles peuvent être les conséquences, j'ai envie qu'on réponde à ça. Et alors en fonction de ce profil que je trace, elle est chargée de trouver la personne qui est le mieux à même de répondre aux questions que je me pose.
Quelles sont les qualités d'un bon journaliste radio ?
Les qualités d'un bon journaliste radio, c'est un peu les mêmes qualités que tout le monde la voit en plus, j'ai envie de dire. Les qualités, c'est la disponibilité, c'est beaucoup bosser, c'est être rapide. Surtout en radio, on peut être un peu plus lent en presse écrite, mais en radio, il faut surtout être rapide. C'est aussi, je pense, voilà, avoir une bonne voix, avoir un ton, savoir placer sa voix, faire des papiers qui soient vivants. Et pas soporifique, et pas linéaire, et soporifique. Voilà. Et c'est de plus en plus, ça, c'était pas comme ça il y a 20 ans, mais de plus en plus aussi, c'est parler un peu comme dans la vie, et se dire qu'on n'est pas en train de faire un exposé, mais qu'on est en train de raconter une histoire à quelqu'un qu'on connaît. Et quand on raconte même un fait divers, quand on raconte une affaire économique, c'est de s'imaginer qu'on a quelqu'un en face, et qu'on est en train de lui dire, voilà, écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ça se passe comme ça, en fait.
Les intervenants de l'émission sont-ils prévus à l'avance ou en fonction de l'info?
Sur la partie média, ils sont prévus à l'avance. Sur la partie info, ils sont prévus le matin. Donc c'est-à-dire que le matin à 9h, on commence à chercher l'intervenant qui sera là midi et demi.
Comment voyez-vous qu'une émission est ratée ou réussie ?
J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Moi, je sais qu'il y a des émissions où je m'amuse plus que d'autres, où j'apprends plus de choses que d'autres. Voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur la partie info. J'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, raté ou réussi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a des gens que le sujet peut ne pas intéresser, donc ils vont trouver que l'émission est chiante. Voilà, moi en tout cas, c'est l'émission que j'avais envie de faire aujourd'hui, et donc en ça, elle est réussie. Maintenant, est-ce que elle a plu à tout le monde? Sûrement pas, mais en tout cas, moi, elle m'a plu, quoi.
Et quelles sont les différences entre le métier d'animateur et de journaliste?
Il y a de moins en moins de différences, en fait, aujourd'hui. Parce que quand on est journaliste, il faut être animateur. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire quand on anime un jeu, quand on anime un divertissement, voilà, bon, on est libre, on fait ce qu'on veut. En revanche, de plus en plus aujourd'hui, quand on est animateur en radio ou en télé, quand on anime une session d'info, faut aussi porter, par exemple, la session d'info. Là, ce que je fais, c'est non seulement je fais de l'info, mais en même temps, je tire c'est ce qu'on appelle un anchorman aux États-Unis. Il n'y a pas de vrai mot pour dire ça en France, quoi. C'est un espèce de, on pourrait dire battleur, mais c'est, le mot est pas joli et un peu péjoratif en France. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui prend, qui vous dit dans un instant, restez avec nous, il va se passer ça, il va se passer telle chose dans l'émission, vous êtes sur Europe 1 et vous allez apprendre ça. Voilà. C'est quelqu'un qui met en scène, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir, quand on fait de l'info comme ça, il faut avoir la rigueur du journaliste. Et en même temps, il faut avoir ce côté un peu battleur qui fait que les gens vont avoir envie de rester. Et puis, il faut savoir créer aussi un contact avec le public, ce que doit moins faire un journaliste qui fait un papier, qui est plutôt dans quelque chose d'un peu froid en général. Il faut que les auditeurs prennent du plaisir à venir vous écouter. Voilà, il faut qu'il y ait une chaleur qui passe, une humanité, donc et que les gens soient contents en se disant bah tiens, je vais l'écouter parce qu'il est sympa, parce qu'il me parle, parce qu'il a des réflexions intéressantes, parce qu'il pose les bonnes questions. Voilà, c'est très compliqué, c'est une espèce d'ensemble, une espèce de magie, la radio, qui est assez compliqué à définir, mais voilà, je pense qu'il faut en tout cas, quand on fait un métier comme ça où on anime une tranche d'info, il faut être très naturel, très spontané, et à la fois, c'est pour ça moi aussi je pose beaucoup de questions qui sont des questions en réaction, parce que je me dis bah l'auditeur qui est derrière se pose à ce moment-là les mêmes questions que moi j'ai envie de poser, donc je les pose même si elles sont pas prévues, même si elles sont gênantes.
Et dernière question, réécoutez-vous vos émissions par
jamais.
La suite?
Jamais. Non, déjà parce que c'est des quotidiennes, donc c'est compliqué, mais aussi parce que j'aime pas m'écouter, comme j'aime pas me voir à la télé, donc je déteste ça, donc voilà, donc je le fais pas.
Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Jean-Marc Morandini, donc au micro d'Aline Villeneuve et de Laurine Delacour pour Fréquence Sillée. Vous étiez donc sur une émission, une radio locale rencontre une radio nationale avec une visite à Europe 1 qui vous était présentée par les élèves de première L de la cité scolaire Paul Scarron.